Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Au sommaire ce soir, la mort d'un soldat français au Mali. Le brigadier Alexandre Martin a été tué dans une attaque hier au mortier contre le camp militaire de Barkhane. Il s'agit du 53e militaire français tué au combat au Sahel. Un Sahel en pleine ébullition et où le sentiment anti-français est de plus en plus fort. Nathanaël Charbonnier dans un instant. Des combats acharnés et des scènes de guerre à nouveau en Syrie. Depuis 4 jours, les forces kurdes affrontent les djihadistes de Daesh. On dénombre plus de 136 morts. La politique ce dimanche, Éric Zemmour n'est autre que le bac à recyclage des idées de Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Déclaration abrasive de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sur ce manège à 3. L'épidémie de coronavirus, le pass vaccinal entre en vigueur à partir de demain. Ce soir, l'OMS estime plausible une fin de la pandémie en Europe. Les hôpitaux de Paris vont saisir la justice et se disent scandalisés. Le chirurgien qui a mis en vente la radio d'une rescapée de l'attentat du Bataclan reconnaît une erreur. Arthur Desnouveaux, président de l'association des victimes Life for Paris.
Alors vraiment qu'un médecin qui a suivi, qui a opéré des victimes puisse se dire qu'il y avait moyen de se faire de l'argent en vendant une radiographie, c'était quelque chose de complètement incroyable jusqu'à avant-hier quand on m'en a parlé. C'est extrêmement choquant.
Dans ce journal également, Marée Noire historique au Pérou, le gouvernement déclare l'urgence environnementale. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport au menu du tennis, la qualification pour les quarts de finale de Gaël Monfils à l'Open d'Australie et la Coupe du Monde de ski alpin à Kitzbühel en Autriche. La météo partagée, grisaille au nord, soleil au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les chiens ont un plus bon odorat que les humains. Merci, au revoir.
Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
Alexandre Martin a été tué au Mali. Il avait 24 ans. Le soldat français, le brigadier Martin, membre du 54e régiment d'artillerie d'hier, est mort lors d'une attaque au mortier hier qui a visé le camp militaire de l'opération Barkhane à Gao. La classe politique, dans son ensemble, a rendu hommage au soldat français. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans un communiqué, a fait part de sa très vive émotion. Au Mali, où la France a été visée, au Burkina Faso, où une confusion règne dans les casernes du pays. Des coups de feu ont été entendus. Le siège du parti a été incendié à Ouagadougou, la capitale. Mais le gouvernement écarte tout coup d'État. Il privilégie des mutineries. Mali, Burkina Faso, tout le Sahel est fragilisé et le sentiment anti-français monte partout au Sahel. Nathanaël Charbonnier.
Le Sahel va mal et les événements s'enchaînent. Attaque au Burkina Faso contre des militaires français cette semaine. Mort d'un militaire français ce samedi à Gao, au Mali. À cela s'ajoutent des manifestations interdites à Ouagadougou, ainsi que des mutineries dans les casernes burkinabées. Le Sahel va mal et visiblement les choses ne s'arrangent pas. Mais cela arrive dans un contexte bien précis, celui d'une Afrique de l'Ouest qui ne veut plus de la France. Le sentiment anti-français monte partout et il arrive dans une région épuisée par 10 ans et plus de guerre. On ne compte plus les manifestations au relent anti-français, cela est valable au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger. Tout est bon pour bouter le drapeau tricolore hors d'Afrique et pour le remplacer ici par la Russie, ici par la Turquie, ici par la Chine. La France se meurt en Afrique et même si Emmanuel Macron rappelle sa détermination à rester, il sera difficile de ne pas tenir compte un jour ou l'autre de la volonté des peuples et politiques africains.
Nathanaël Charbonnier, en Syrie également, des combats acharnés entre les forces kurdes et les djihadistes de Daesh se poursuivent pour le 4e jour consécutif. Ces affrontements ont débuté jeudi soir. Des djihadistes de l'État islamique ont attaqué une prison de la ville de Hasakeh pour libérer leurs camarades et depuis, les combats n'ont pas cessé. Le bilan est de plus de 136 morts. Des scènes de guerre sont de retour en Syrie. À Beyrouth, correspondance de Laure Stéphan.
Des milliers d'habitants de Hasakeh ont fui des combats décrits comme acharnés alors que les forces kurdes ont massé des renforts. Celles-ci tentent de reprendre le contrôle d'une prison sous leur surveillance après l'offensive lancée jeudi soir par des combattants de l'organisation État islamique pour libérer des affiliés incarcérés. Des combattants qui ont mené de nouvelles attaques aujourd'hui contre le lieu de détention. En parallèle, des affrontements ont lieu dans un quartier proche de la prison où des djihadistes sont parvenus à s'infiltrer et la traque des détenus évadés dont le nombre n'est pas inconnue se poursuit. L'offensive menée par des combattants lourdement armés de l'organisation État islamique est la plus importante depuis la fin, il y a 3 ans, de son califat autoproclamé. Elle a été revendiquée et confirme une résurgence du groupe djihadiste qui a mené diverses opérations meurtrières dans le nord-est de la Syrie au cours des derniers mois contre les forces kurdes ou l'armée syrienne. Face à cette déstabilisation, des responsables kurdes mettent en cause la passivité des Occidentaux qu'ils pressent depuis des années de rapatrier leurs ressortissants détenus dans le nord-est syrien. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
La politique ce dimanche, et il est beaucoup question d'Éric Zemmour, de son appel à l'union des droites et du ralliement de Gilbert Collard, un ténor du Rassemblement National. Marine Le Pen dénonce des comportements de mercenaires après les ralliements de ces derniers jours vers Éric Zemmour. Gabriel Attal, de son côté, met tout le monde, à droite et à l'extrême droite, dans le même sac ou dans le même bac. Le porte-parole du gouvernement était l'invité de Questions politiques à la mi-journée sur France Inter.
Il y a une espèce d'économie circulaire qui s'est installée entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Vous avez des personnes, des soutiens qui vont de l'un à l'autre, des idées qui vont de l'un à l'autre, et vous avez des mots qui vont de l'un à l'autre. Vous avez Marine Le Pen qui est le produit d'origine, vous avez le tandem Pécresse-Ciotti qui est un peu la copie, et puis vous avez Zemmour qui est le bac à recyclage qui récupère un peu tout le monde. Voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant, je peux vous faire le commentaire de cela. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet qui intéresse le plus les Français. Voilà. Moi, je pense que, en tant que porte-parole du gouvernement, quand je suis invité sur des plateaux, je pense que les personnes qui sont au bout du fil, comme on dit, elles attendent plutôt que je parle de la question de l'épidémie, de la crise sanitaire, de la question de la relance de l'économie parce que c'est leurs emplois, de leur sécurité.
Gabriel Attal avec Thomas Snegaroff. L'épidémie de coronavirus toujours très forte en France et des chiffres de contamination toujours très élevés. À partir de demain, le pass vaccinal entre en vigueur pour les plus de 16 ans et avant une levée progressive des restrictions à partir du 2 février. On fait le point sur ce qui s'en change ou non à partir de demain. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Avec vous, le mode d'emploi de ce pass vaccinal.
Eh bien, pour obtenir ce nouveau pass, il faut avoir un schéma de vaccination complet, c'est-à-dire une ou deux injections en fonction du vaccin que vous avez reçu, plus la dose de rappel obligatoire, sauf pour les adolescents de 16 à 17 ans qui en sont dispensés. Celles et ceux qui sont en règle n'auront aucune démarche spécifique à effectuer. Le pass sanitaire sera automatiquement transformé en pass vaccinal. Si vous n'êtes pas encore vacciné, sachez que vous pourrez obtenir le pass dès votre première injection, mais pour le valider, vous devrez présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures et vous engager à faire une deuxième dose dans le mois qui suit. Autre cas de figure, les personnes vaccinées ou non qui ont été testées positives au Covid, si elles possèdent un certificat de rétablissement, elles pourront bénéficier de ce pass vaccinal valable jusqu'à 6 mois après leur contamination. Pas de changement en revanche pour les mineurs de 12 à 15 ans, ils resteront soumis à l'actuel pass sanitaire. Les enfants de moins de 12 ans, eux, ne sont pas concernés par ces mesures.
Alors Yann, un pass vaccinal qui va s'appliquer dans quel lieu précisément ?
Eh bien, il sera nécessaire dans la plupart des lieux culturels ou de loisirs, cinéma, théâtre, musée, salles de sport, piscines, dans les foires, les séminaires ou les salons professionnels, également dans les bars et les restaurants. Avec une nouveauté, les restaurateurs pourront désormais vérifier votre identité. Idem dans les transports publics interrégionaux, les avions, les trains ou les cars, avec une exception toutefois dans les transports. Le pass vaccinal ne pourra pas être exigé en cas de motif impérieux familial ou médical.
Yann Gallic, à l'instant, la France annonce 301 614 nouveaux cas de contamination au coronavirus pour les dernières 24 heures. Et puis sachez aussi que l'OMS estime plausible ce soir une fin de pandémie en Europe avec le variant Omicron. À Bruxelles cet après-midi, 50 000 personnes selon la police ont manifesté contre les mesures sanitaires. Il s'agit de la 5e manifestation en 2 mois à Bruxelles. Des affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants. C'est une histoire à peine croyable et pour le patron de la PHP, Martin Hirsch, c'est un acte scandaleux et abject. Les hôpitaux de Paris vont saisir la justice après les révélations de Mediapart. Une radio d'une victime du Bataclan a été mise en vente sur un site d'enchères. C'est un chirurgien de l'hôpital Georges Pompidou qui a tenté de vendre la radio d'une survivante du Bataclan, une jeune femme qu'il avait opérée et qui avait l'avant-bras transpercé par la balle d'une Kalachnikov. L'association des victimes du 13 novembre, Life for Paris, dit se tenir aux côtés de la victime. Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris.
Alors vraiment, qu'un médecin qui a suivi, qui a opéré des victimes, puisse se dire qu'il y avait moyen de se faire de l'argent en vendant une radiographie, c'était quelque chose de complètement incroyable jusqu'à avant-hier quand on m'en a parlé. N'importe quel patient qui verrait ses radios vendues sur le net par son médecin serait choqué. Mais en plus, nous, malheureusement, on a cette fascination morbide pour le 13 novembre qui nous poursuit depuis des années. Et voir que encore aujourd'hui, plus de 6 ans après, de telles idées qui peuvent jaillir d'un drame pareil, c'est extrêmement choquant, voire plus. Si la personne à qui appartient la radio est au courant, elle souhaite préserver son anonymat, elle espère que le retentissement médiatique autour de tout ça s'arrêtera rapidement et elle veut réfléchir sereinement à quelle suite donner à cette affaire, éventuellement judiciaire.
Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris. Jean-Jacques Bourdin, écarté de l'antenne, le journaliste de BFM TV et RMC, visé par une enquête pour agression sexuelle, a été retiré provisoirement de l'antenne par le groupe Altice. Jean-Jacques Bourdin dit regretter une décision unilatérale. À l'étranger, c'est un désastre écologique au Pérou, une marée noire historique qui souille les plages du pays au point que le gouvernement péruvien déclare une urgence environnementale de 3 mois. Le littoral et l'océan sont pris dans une nappe de pétrole après un accident lors du déchargement d'un tanker dans une raffinerie près de Lima. Un accident provoqué par une violente houle après l'éruption volcanique au Tonga à 10 000 km de là. Une marée noire qui continue de s'étendre. Des oiseaux mazoutés ont été retrouvés jusqu'à 124 kilomètres du lieu de la marée noire. Sur place au Pérou, Amanda Chaparro.
22 plages, 2 réserves naturelles et plus de 42 kilomètres de littoral souillés par le pétrole brut. C'est le triste bilan de la marée noire qui s'est produite il y a une semaine sur la côte centrale péruvienne. Loin, très loin de la petite fuite annoncée initialement par l'entreprise espagnole Repsol. Le ministère de l'Environnement a décrété l'urgence environnementale pour 90 jours, car la pollution représente un risque élevé pour la santé publique dans une zone très fréquentée par les vacanciers en cette période d'été austral. Carmen Eck, présidente de l'ONG Oceana, jointe par téléphone, témoigne de la situation sur place.
Malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que la nappe de pétrole continue de s'étendre vers le nord. Les travaux d'endiguement de la fuite ne semblent pas suffisamment efficaces. L'entreprise dit qu'elle a mis des barrières dans la mer, mais nous n'avons pas de preuves ou d'images. Et ce qui est certain, c'est que la nappe continue d'avancer.
La défiance est grande au Pérou contre l'entreprise, accusée de négligence et qui continue de nier toute responsabilité dans l'accident. Une enquête est ouverte par le parquet et l'entreprise Repsol a 10 jours pour mettre en œuvre toutes les mesures de dépollution. Lima, Amanda Chaparro, France Inter.
En Espagne, la ville de Barcelone vient d'inventer en quelque sorte le vélo de ramassage scolaire. Pour se rendre à l'école chaque vendredi, désormais, les enfants ont droit à une ligne de vélo-bus. Le trafic est coupé à la circulation et les plus petits accompagnés de leurs parents peuvent faire le trajet en toute sécurité. Les pistes cyclables sont en général pensées pour des adultes qui savent rouler en vélo et qui ont l'habitude de faire du vélo, pas pour des enfants qui commencent à faire du vélo. Et la ligne Vélobus, lancée il y a quelques mois, commence à faire des émules dans le monde entier. Henri Delaguerie a accompagné à vélo les petits Barcelonais et leurs parents.
Le jour vient à peine de se lever, il fait très froid et pourtant sur leur petit vélo, les près de 50 enfants escortés par leurs parents ont tous le sourire. C'est vendredi, la rue est coupée à la circulation et c'est l'heure d'aller à l'école. Le trajet dure une vingtaine de minutes, Jorge accompagne son fils Félix.
Moi j'adore, normalement nous on vient aussi en vélo tous les jours et ces jours-là c'est beaucoup plus tranquille, calme.
C'est plus facile de faire du vélo comme ça, surtout avec un enfant qui a 4 ans.
Oui, oui. Pour les adultes, les pistes cyclables ça va, mais pour les enfants des fois c'est un peu dur.
Comme pour un bus, cette ligne a un point de départ et un point d'arrivée. Les enfants rejoignent le cortège lorsqu'ils passent au niveau de leur arrêt. L'ambiance est festive et à leur passage, des habitants applaudissent au balcon. La fille de Nina a fait d'immenses progrès. Elle n'a désormais plus peur d'aller à l'école en vélo.
Ma fille est fascinée parce qu'elle est seule sur son vélo. Elle peut être indépendante. Ça l'aide à devenir autonome en toute sécurité. C'est très bien.
Aujourd'hui, il existe 7 lignes de vélobus à Barcelone. Les images de ces enfants à bicyclette sont devenues virale sur les réseaux sociaux, de quoi inspirer d'autres villes. San Francisco, Glasgow ou Buenos Aires suivent désormais l'exemple de la capitale catalane. À Barcelone, Henri Delaguerie, France Inter.
Voilà la ligne de vélobus à Barcelone. 19h14 sur France Inter. La page sport de cette édition. Bonsoir, Winnie Claret.
Bonsoir.
Gros week-end pour les Français à l'Open d'Australie de tennis.
À commencer par Gaël Monfils, qualifié en quart de finale après sa victoire en 3-7 ce matin contre le Serbe Miomir Kecmanovic. Victoire arrachée à l'un de ses adversaires les plus coriaces.
Je suis bien fatigué. Il faisait bien chaud, humide. Je savais qu'il jouait bien. Je savais que j'en avais bien chié à Bercy. Entraînement, j'ai jamais gagné contre les entraînements. Je prenais que des branlées. J'ai bien tenu le plan tactique. J'ai bien joué. J'y suis allé quand il fallait y aller. Et donc, du coup, je suis content. C'est un tournoi du Grand Chelem que j'aime bien, tu vois. Forcément, de bien jouer en Grand Chelem, c'est cool, quoi.
Gaël Monfils qui affrontera l'Italien Matteo Berrettini, 7e mondial en quart de finale. Pour Adrian Manarino, la marche était trop haute. Le Français s'est incliné en 8e face à l'Espagnol Rafael Nadal en 3-7. Chez les femmes, Alizé Cornet peut créer l'exploit la nuit prochaine. Si elle bat la Roumaine Simona Halep, elle décrochera alors, pour la première fois de sa carrière, son ticket pour les quarts de finale d'un tournoi majeur, Fabrice Abgral.
Alizé Cornet participe à Melbourne à son 63e tournoi du Grand Chelem, mais surtout le 60e d'affilée. Elle n'en a raté aucun depuis 2007. La Niçoise, âgée de 32 ans, disputera seulement, en revanche, son 6e 8e de finale en Grand Chelem. Elle s'est hissée à ce niveau dans les 4 tournois majeurs, mais l'ex numéro 12 mondial n'a jamais été plus loin, jamais atteint les quarts de finale. Elle n'en fait pas une fixation, encore moins une obsession.
Ça me préoccupe pas du tout. Je suis très fière de la carrière que j'ai eue. J'en ferai pas une maladie si j'arrive pas à le faire. Et c'est pas ce qui me restera de ma carrière après coup. Puis si ça marche pas, mais j'essaierai encore parce que je n'abandonnerai jamais.
Ironie de l'histoire, c'est à Melbourne en 2009 qu'Alizé Cornet a joué et perdu son premier 8e de finale. Elle avait 19 ans.
L'histoire est belle, moi je trouve, d'avoir cette constance et de pouvoir reproduire ce genre de résultats 13 ans après, alors que j'étais qu'une ado à l'époque et que maintenant je suis une vétérane, comme ils disent. Donc j'ai pas envie de me mettre de limites.
Et pourquoi pas finalement rêver un premier quart de finale en Grand Chelem, d'autant plus que la Niçoise s'est imposée 3 fois en 4 confrontations face à Simona Halep, l'ex numéro 1 vainqueur de 2 titres du Grand Chelem et finaliste à Melbourne en 2018.
Fabrice Abgral à l'affiche aussi cette nuit à Melbourne, la fin des 8e de finale. Le numéro 2 mondial, le russe Daniil Medvedev, sera opposé au jeune franco-américain Maxime Cressy.
Et puis en rugby, le week-end de Coupe d'Europe touche à sa fin. Et on connaît la plupart des qualifiés, Winnie.
Oui, pour l'instant, 6 clubs français iront en 8e de finale de Champions Cup. Le Racing 92, Clermont, Bordeaux, La Rochelle, mais aussi le Stade Toulousain et le Stade Français qui étaient en mauvaise posture. Montpellier reçoit en ce moment les Anglais d'Exeter, c'est la mi-temps. Et Montpellier mène pour l'instant 24-19. Le MHR qui a besoin d'un point pour se qualifier. Et puis l'autre grosse info rugby du jour, c'est l'absence de 9 joueurs français pour préparer le tournoi des 6 nations qui commencera le 5 février prochain. Et notamment les Toulousains Antoine Dupont et Romain Tamac, testés positifs au Covid-19. Des nouvelles des Bleus à l'Euro de handball en Hongrie. La France affronte le Monténégro demain soir à 20h30. Victoire impérative pour espérer se qualifier en demi-finale. Un bon point, le pivot Ludovic Fabregas, qui était absent lors de la défaite française face à l'Islande hier, devrait jouer demain.
En ski, Johan Claret rate de peu le podium en Autriche.
Oui, il termine 5e de la descente à Kitzbühel, 2 jours après avoir pris la 2e place de l'épreuve, comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin. Le doyen de l'équipe de France, 41 ans, est passé tout près du podium, mais une grosse faute au début du tracé est venue gâcher son avance.
Ouais, je suis un peu vert aujourd'hui, hein. Je me cache pas, je fais une énorme faute là-haut. J'avais la 3e place provisoire, mais largement dans les pattes, je pense. Les 2 premiers, sûr que non, mais la 3e, je l'avais largement dans les pattes, donc je suis un peu vert parce que vraiment, je fais une grosse faute là-haut. Et puis du coup, après, je me bats comme un lion jusqu'en bas, mais je pense que je suis très très loin en passant la ligne et puis je finis 5e. Ouais, c'est un peu les boules là sur le coup parce que je me suis dit, bon, c'est pas si mal au final. Et puis quand je vois qu'ils passent tous derrière, ça a été beau de podium, mais bon, ça reste un super week-end quand même. Une 2e et une 5e place, c'est génial, quoi.
Et c'est le Suisse Beat Feutz qui l'a emporté aujourd'hui. À Lillehammer, en Norvège, les skieurs et snowboarders handisport français reviennent avec 20 médailles, dont 10 titres de champion du monde, et finissent 3e au classement des nations derrière la Russie et les États-Unis.
En biathlon, c'était la dernière épreuve avant les Jeux de Pékin, dans 2 semaines.
Les Français privés de Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin arrivent 4e du relais homme d'Antol Santerselva en Italie, derrière la Norvège, la Russie et l'Allemagne. Chez les femmes, c'est l'Italienne Dorothea Vierer qui remporte la mass start. La Française Anaïs Chevalier-Boucher est 3e. Justine Brezaz prend, elle, la 5e place. Et maintenant, place au jeu d'hiver pour la biathlète savoyarde. Les règles sanitaires, on le sait, sont drastiques. Plus question de prendre le moindre risque.
On fait vraiment très très attention parce que le pays d'accueil ne laissera aucun passe-droit. La bulle du biathlon est plutôt safe. On porte tous les masques, on porte les gants. Et la semaine prochaine à la maison, ça va être pareil, isolement total jusqu'au départ dimanche.
La biathlète savoyarde Justine Bressaz. Et puis au rallye de Monte-Carlo, c'est finalement Sébastien Loeb qui l'emporte au nez et à la barbe de son rival Sébastien Ogier. Loeb, qui a 47 ans, est le pilote le plus âgé vainqueur en championnat du monde.
Alors on parlait de biathlon, J-12 avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Et c'est le moment de s'intéresser à une discipline, le bobsleigh, et plus particulièrement au savoir-faire français en matière de piste de bobsleigh. La seule piste de bobsleigh en France est à La Plagne, en Savoie. A vu le jour il y a 30 ans, tout juste à l'occasion des Jeux d'hiver d'Albertville. À l'origine de cette prouesse technique, il y a un homme, Alain Bessard, qui depuis 1992 continue de veiller sur cette piste devenue une référence dans le monde de la glisse, à tel point que les organisateurs des JO viennent le consulter. Et cela a été le cas pour les Chinois, pour les Jeux qui démarrent le 4 février prochain. Jérôme Val est lui aussi allé à La Plagne à la rencontre de ce passionné de la glace, et c'est le long format de ce soir.
Le soleil a disparu depuis longtemps sur ce versant nord de la montagne. En cette fin d'après-midi, des dizaines de curieux vont profiter d'un baptême en bob raft. Un peu en retrait, Alain Bessard les observe, les yeux régulièrement fixés sur cette glace qu'il a façonnée.
En surface, on doit être pratiquement à 0 degré, moins 0,5.
Il a besoin de la toucher. Alain Bessard entretient une relation presque charnelle avec cette piste.
La piste, je l'ai toujours appelée mon bébé. Avant d'arriver à être serein, c'est aussi beaucoup de nuits de galère. Donc on se rapproche effectivement de la glace comme on peut se rapprocher de son épouse au niveau familial.
Nichée au creux d'une paroi, la piste de bobsleigh de La Plagne serpente entre les arbres et les chalets, presque invisibles depuis le bord de la route. Il y a 30 ans, construire un tel équipement était un véritable défi, se souvient Alain Bessard.
À l'époque, c'était une des plus longues. Ça reste encore une des plus techniques. On a maintenant 1500 mètres chronométrés avec 200 mètres de décélération, 19 virages, et ce qui représente à peu près 6800 mètres carrés de glace à entretenir.
Et pourtant, avec une formation d'électrotechnicien, ce n'était pas son métier. Mais il est devenu directeur technique de la piste, ce que les anglo-saxons appellent un ice master, un maître de la glace.
Vous imaginez bien qu'avec 15 pistes au monde, il y a très peu de gens qui font ce métier, mais on est à peu près 150-200 personnes dans le monde à savoir travailler la glace.
La piste de La Plagne est devenue une référence mondiale, tout comme le savoir-faire d'Alain Bessard. Depuis les Jeux de Turin en 2006, les organisateurs des JO viennent le consulter, et avec ses équipes de glaciers, ceux qui polissent la glace, il s'est rendu en Russie, en Corée du Sud. Les Chinois, eux aussi, ont profité de son expérience.
Ce sont les glaciers ou les chefs de piste ou les directeurs techniques qui sont à notre place ce jour pour commencer les Jeux, mais ils sont à la même place que nous il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'ils connaissent absolument rien.
Car l'enjeu n'est pas seulement de construire une piste ou d'entretenir la glace, il faut également la faire vivre une fois les Jeux terminés pour éviter un gouffre financier.
Qu'est-ce qu'on fait après les Jeux? Donc nous, on a cette expérience unique au monde à La Plagne d'avoir fait descendre des engins dès l'année 92-93 après les Jeux, et ce qui permet bien évidemment d'équilibrer le budget.
À La Plagne, la piste accueille chaque année des milliers de touristes, des épreuves de Coupe du Monde, et pas loin, dans la salle des machines ou au bord de la glace, il y a toujours l'ombre d'Alain Bessard.
Long format signé Jérôme Val.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Sur l'agenda présidentiel, Emmanuel Macron poursuit sa tournée des régions. Il se rend demain en Creuse, puis en Haute-Vienne mardi, avant de se rendre ensuite à Berlin pour une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La campagne présidentielle la semaine prochaine. Fabien Roussel, le candidat communiste, présente son programme demain, et le rendez-vous avec Marine Le Pen est fixé à mercredi pour ses vœux à la presse, et puis à gauche, début jeudi et jusqu'à dimanche, du vote de la primaire populaire. Mercredi, Pôle emploi publiera les chiffres du chômage pour le quatrième trimestre 2021, l'occasion de mesurer la baisse du chômage à quelques mois de la présidentielle. Et puis jeudi, journée de mobilisation pour les salaires, à l'appel de plusieurs syndicats et organisations de jeunesse. Sur l'agenda international, l'autre procès de George Floyd débute demain lundi. Trois policiers sont jugés pour leur indifférence. Il s'agit des collègues de Derek Chauvin, condamnés pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis. Ils se retrouvent, les trois policiers, à leur tour devant la justice pour avoir violé les droits civiques de la victime. Loïc Loury.
Le 25 mai 2020 à Minneapolis, et malgré les suppliques de sa victime, c'est pendant près de 10 minutes que Derek Chauvin avait maintenu son genou sur la nuque de George Floyd. Autour de lui, trois autres policiers participent à l'arrestation, Alexander Kueng, Thomas Lane et Tutao. Ce dernier maintient la foule à distance, tandis que ses deux collègues immobilisent George Floyd au niveau du dos et des jambes, et pas un surtout ne réagit face à l'agonie du quadragénaire qui finit par perdre connaissance. Après avoir répété « I can't breathe »,« je ne peux pas respirer » ces prochaines semaines. C'est pour cette raison que les trois ex-policiers vont comparaître, jugés pour leur indifférence délibérée, dit l'acte d'inculpation. Eux plaident non coupables et devraient insister en particulier sur l'ascendant exercé par Derek Chauvin, un officier très expérimenté. Après ce procès fédéral, ils seront encore jugés au pénal l'été prochain. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et on terminera la semaine internationale avec les élections législatives au Portugal. Je vous signale également le concert hommage à Michel Legrand, samedi prochain à la Maison de la Radio et de la Musique. Voilà pour l'agenda. Nous avons rendez-vous maintenant avec de jeunes mamans dans un café. Le café Rose Chou à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, spécialement conçu pour les futures et les jeunes mères. Les jeunes mamans se sentent parfois perdues et seules. Leur vie est chamboulée par l'arrivée d'un enfant. Ce café leur permet de rencontrer d'autres jeunes mères, de parler et de prendre un peu de temps pour elles. La vie de maman en France n'est pas toujours simple. On est bien préparé à l'accouchement, mais pas à ce qui suit. C'est ce qu'a poussé Élodie Guillard-Cyrus à créer le Café Rose Chou.
Aujourd'hui, vous avez plusieurs façons de préparer l'accouchement. Vous avez un suivi médical, vous avez un suivi paramédical, mais il n'y a pas d'école de la jeune mère. En France, après avoir accouché, il faut attendre 6 semaines pour avoir un rendez-vous, qui est un rendez-vous médical. Mais il n'y a aucune prise en charge des impacts psychologiques, émotionnels et organisationnel d'une naissance. Et je trouve que les femmes peuvent réellement se sentir seules après avoir donné naissance à un enfant.
Ce café, vous l'appelez, ou il est surnommé le café Papote?
Alors, l'idée, si vous voulez, c'est de donner des prétextes aux mamans de sortir de chez elles, de rompre l'isolement du congé maternité. Et donc la Papote est l'un des prétextes. Il s'agit ici de pouvoir confortablement se retrouver entre mères ou entre futures jeunes mamans. Les bébés sont accueillis dans des transats à côté des mamans qui peuvent, et ce n'est pas souvent qu'elles peuvent le faire, prendre un café chaud par exemple. Voilà, c'est vraiment l'idée de dire ben, on vous accueille avec vos doutes, vos questions, vos énergies et votre fatigue.
Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes mamans ou aux futures jeunes mamans?
Alors qu'il n'y a surtout pas d'école de la maman parfaite, et c'est surtout pas l'ambition de Rochou. Par contre, il existe des lieux d'accueil physique. Alors, on peut trouver du réconfort sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de groupes d'entraide qui existent, mais qu'il faut ne pas hésiter à aller à la rencontre des gens physiquement pour ne pas rester seul.
La maman parfaite n'existe pas. Vous dites, on fait comme on peut, en fait.
Ah oui, on fait comme on peut. C'est très bien de s'informer. Moi, je dis toujours, il faut faire attention aussi à la surinformation parce qu'on se met beaucoup de pression sur la façon idéale d'élever un enfant ou d'en prendre soin. Donc il faut effectivement vraiment faire comme on peut, et faire comme on peut, ça veut dire aussi s'écouter en tant que femme et connaître ses limites, se respecter en tant que femme et ne pas chercher à reproduire un modèle qu'on pourrait voir par exemple sur les réseaux sociaux.
Et de toute façon on fera bien.
On sait ce qui est bon pour notre enfant et en s'écoutant, on fera bien.
Voilà, en s'écoutant, on fera bien. Élodie Guillard-Cyrus, gérante du café Rose Chou, au générique de cette édition. Un grand merci à Philippe Duclos et Mathias Alléon en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Stéphane Rousset et Sébastien Donat. Merci à l'équipe, merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Les conditions anticycloniques maintiennent un temps très stable sur le pays, avec toujours pour ce lundi une majorité de bleu au sud et un ciel plus mitigé dans la partie nord. En fin de nuit, les gelées seront quasi généralisées entre 0 moins 3 degrés avec des brouillards locaux, mais souvent givrants. En journée, excepté les entrées maritimes dans le golfe du Lion, le soleil va une nouvelle fois largement s'imposer dans un ciel peu nuageux du Jura aux Alpes, de la Méditerranée au Massif central et des Pyrénées au Poitou-Charentes. Plus haut, les grisailles soudées le matin devraient souvent évoluer favorablement vers un ciel variablement ensoleillé passé la mi-journée. Les températures de l'après-midi à peu près stationnaires atteindront 11 à Limoges, Cognac et Toulouse, 14 à Tarbes ainsi qu'à Nice et à Bastia. Il fera 10 à Clermont-Ferrand, 7 à Bourges et Nevers et généralement 6 degrés en moyenne du nord de la Loire à la Belgique et du Grand Est au Mont du Lyonnais.
Jean-Michel Golinski de Météo France.